Fred Film Radio, Festival de Cannes, France.
Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Je suis aujourd'hui avec Pierre Salvadori pour parler d'un film qui a fait glapir de rire La Croisette, un film de la quinzaine des réalisateurs qui s'appelle En Liberté. Bonjour Pierre Salvadori.
Bonjour.
Comment raconteriez-vous, vous, l'histoire de ce film?
C'est l'histoire d'une femme qui se rend compte que son défunt mari, qui était un flic héroïque, qui n'était pas l'homme qu'elle pensait, que c'était un flic ripou, qu'il a fait des choses assez monstrueuses, et entre autres, il a enfermé un innocent en prison pendant 8 ans. Et cette femme va porter les fautes de son mari, c'est-à-dire que elle va cacher la vérité à son fils sur ce père qu'elle lui a décrit comme glorieux, et ensuite elle va porter les fautes et essayer de réparer les fautes de ce mari. C'est-à-dire qu'il a enfermé cet innocent, elle va le suivre, et elle va essayer de l'aider à vivre, elle va essayer de l'aider à s'en sortir, mais comme elle lui dit pas la vérité, comme c'est quelqu'un qui essaye de réparer des fautes en se passant de la vérité, ça va donner des situations assez terribles.
Alors ce que j'ai trouvé génial, au-delà de l'humour, qui est quelque chose qui est indescriptible, il faut aller le voir bien sûr, c'est qu'en fait, toutes les scènes du film sont des scènes où les personnages jouent quelque chose ou qui correspondent à une histoire qu'ils se racontent.
Parce qu'en fait, si je raconte maintenant autrement cette histoire, tout ça, ça n'a aucune importance. En fait, c'est l'histoire d'une histoire. C'est un film qui dit mon plaisir des histoires et mon amour de la fiction et l'importance de la fiction dans nos vies et l'importance des histoires dans nos vies. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez Audrey Tautou qui attend son mari qui sort de prison. Il va revenir, il arrive un peu trop tôt, elle n'est pas prête. Et elle va lui demander de jouer son retour. Elle va lui dire, je t'en supplie, j'ai pas pu te sentir arriver, j'ai pas pu t'attendre, ressors et reviens. Et on va s'apercevoir que quand on rejoue le réel, il a parfois beaucoup plus de force que quand on ne le vit une première fois d'une façon spontanée. Et donc ça, c'est dire, et c'est ma façon de dire, l'importance et la force de la fiction dans nos vies. C'est pareil, quand il y a le braquage de la bijouterie à la fin, je l'amplifie avec des vigiles qui, au lieu de surveiller ce qui se passe, commencent à regarder ce braquage dans leur petite caméra, dans leur petite télé de surveillance, comme s'ils étaient au cinéma. Et c'est là encore une façon d'accentuer le plaisir. On voit la scène au premier degré avec Pio et Adèle qui font le braquage, et ensuite on la voit une deuxième fois et on la multiplie comme ces vigiles qui regardent un film muet sur leurs petits écrans. Et le film n'arrête pas de parler de ça. Alors évidemment, il faut garder un vrai récit pour capter l'attention du spectateur, une véritable histoire. Mais au fond, ce film, il parle du bonheur de la fiction et de mon amour de la fiction.
Et comme vous le disiez, il y a aussi une question de regard. Il y a une scène en particulier où à un moment donné, un personnage a devant lui quelque chose qui se passe, mais il regarde Adèle Haenel et il se rend pas compte de ce qu'il lui a raconté, qui est pourtant énorme, mais on ne dit rien. Et dans la foulée, c'est la même chose qui arrive, où il fait une magnifique déclaration d'amour et elle regarde derrière. Donc ça semble dire aussi qu'il n'y a pas vraiment de vérité, que ce qu'on se raconte ou la manière dont on pose les yeux dessus.
Ça semble dire tout simplement que parfois on est tellement encombré par nos peurs, on est tellement ou fasciné par nos amours qu'on a du mal à voir le réel. Parce que c'est ça dont vous parlez, à un moment il y a un psychopathe qui vient faire des aveux dans un commissariat et qui vient dire j'ai tué quelqu'un. Mais comme le flic est amoureux, il regarde derrière lui, il regarde la femme qu'il aime au lieu d'écouter cet homme. Ça, pour moi, c'était aussi une façon de dire très vite au spectateur, c'est pas un film d'intrigue, c'est un faux polar. Ça se passe dans un commissariat, etc. Mais avec le scénariste, on se dit, ok, comment on va dire au spectateur maintenant que l'intrigue, on s'en fout, que c'est pas une histoire de flic, mais c'est une histoire d'amour et une histoire d'histoire. Et ben, on a eu cette idée d'un mec qui essaye d'avouer un crime terrible et au fond personne ne l'écoute. Donc on part de quelque chose parfois d'un peu conceptuel, d'un peu théorique, et puis après on s'aperçoit que ça fournit des choses hyper drôles et voilà, qu'on avance beaucoup avec ça, quoi.
Et puis finalement ça opère une sorte de nivellement, enfin du moins il n'y a pas de culpabilité. C'est vrai que c'est un innocent qui a été mis en prison, donc il y a une réflexion sur la culpabilité, le mari répoux, mais finalement chaque personnage va vivre la même chose. Il y a des effets de miroir entre les différents personnages qui vont avoir chacun à sa manière un sort un peu similaire. Enfin je pense d'abord à Adèle Haenel, au personnage d'Adèle Haenel, et à celui qui était en prison à cause de son mari.
En fait tous ces personnages, je sais pas, ils vont avoir plus ou moins des destins similaires, mais ils vont surtout chercher la vérité, ils vont essayer de se libérer de leur mensonge, se libérer de leur culpabilité, parce que ce sont tous des personnages très entravés. Pio Marma, il est entravé par la colère. Il a été en prison, il a fait 8 ans pour rien, donc il est très en colère. Il a cette idée qu'il peut rattraper le temps perdu, ce qui est une chimère. Elle a le poids de cette culpabilité. Ils vont tous tendre vers ça, essayer de se libérer de ces affects assez encombrants. Voilà, c'est ça surtout le propos, quoi. Et c'est ça ce qu'ils vont vivre. Comment ils vont aller vers la liberté. C'est vraiment si on peut dire aussi, c'est peut-être une histoire d'émancipation. C'est vraiment une femme, Adèle, qui s'émancipe d'un mort, qui se libère d'un mort. Pio, c'est quelqu'un qui va se libérer de sa colère. Voilà. Et puis c'est aussi des histoires d'amour. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui est très important là-dedans. De toute façon, ce sont des personnages qui sont confrontés à des choses très basiques. Dans la dramaturgie, la vengeance, la colère, la culpabilité, la honte, tout ça, ce sont des sentiments très puissants et très basiques. Et après, c'est comment on essaye d'abord d'instiller de la comédie et de jouer avec tout ça, et comment au fond, entre peut-être tout ce qui les rassemble, eux, les quatre, c'est qu'ils ont une vraie morale. Ce sont des personnages qui ont une hauteur morale. Ils sont des gens, ce qu'on appelle des gens bien, confrontés à des dilemmes assez terribles. Et c'est cette friction, et c'est ce conflit qui va créer, en tout cas ici, de la comédie, quoi. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'en faire, quoi.
Oui, ben, je suis contente que vous disiez cela, parce que c'était le sens de ma question, dans le sens où justement il y a pas de jugement, parce qu'on comprend que c'est des circonstances, et donc il y a quand même quelque chose d'optimiste, même d'ailleurs la conclusion pour le petit garçon dont le papa était un héros, puis qui est devenu un ripou, puis qui redevient son héros s'il le veut, s'il décide de le voir comme ça, il y a cet optimisme.
Ah, mais c'est exactement ça. De toute façon, c'est l'histoire. Ce garçon, il va grandir le jour où il s'empare de l'histoire qu'on lui raconte, et il en fait ce qu'il en veut. Et donc, oui, elle est optimiste, au sens où ils finissent par dire oui, j'accepte ce qu'est mon père, et puis j'ai le droit aussi de, malgré tout, de continuer à en faire un héros, ou d'en faire un voyou sympathique si je veux, et pas un monstre. Donc ça, c'est très important. Ouais.
On comprend en vous écoutant, et les gens qui verront le film, ce que je les encourage à faire, donc le verront aussi. Hier, vous avez remercié Edouard Weintraub de prendre une comédie aussi franchement comédique que la vôtre dans la quinzaine, et pourtant on voit bien que le film est quand même très, très structuré. Alors pour faire un film comme ça, est-ce qu'il faut le faire en liberté, ou est-ce qu'il faut au contraire beaucoup de discipline ?
Oh là là, il faut beaucoup, 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 beaucoup de discipline, beaucoup de temps. C'est difficile, c'est pénible. Enfin, je sais pas s'il faut raconter à quel point c'est difficile. C'est ennuyeux de dire ça, et ça intéresse personne. Mais en tout cas, il faut de la rigueur, parce que sinon, si tout se passe n'importe comment, si tout est possible, c'est ce que je dis souvent, mais rien ne se passe. C'est-à-dire qu'une histoire, même quand on veut, comme on en parle actuellement, c'est-à-dire qu'on voit que derrière on essaie d'y mettre des enjeux, d'y cacher des... il faut les dissimuler, il faut que ça reste plaisant, il faut que cette histoire elle ait une logique, il faut en même temps qu'on joue avec le spectateur, qu'on l'amuse, quoi. Et tout ça, ça demande énormément de rigueur. Il faut laisser entrer la poésie aussi, ça veut dire qu'il faut une forme de liberté, mais c'est quelque chose qui aussi là doit être pensé, réfléchi, contrôlé. Tout ça, c'est pas... ça vient pas spontanément, si vous voulez. Et cet espace, il doit venir ponctuellement dans le film, mais pas n'importe quand. Il faut laisser la place pour le récit. Mais c'est ça aussi la beauté du cinéma. C'est que c'est quelque chose de profondément démocratique. Le cinéma, il est pour les gens. Voilà. Donc si on a ces obsessions, si on a ces thèmes, il faut essayer de les transmettre aux autres d'une façon plaisante. Et c'est ça la mise en scène, c'est le langage. C'est comment on s'adresse aux gens et comment on essaye de... oui, de leur coller dans les yeux nos histoires, nos préoccupations, nos envies, quoi. Mais voilà, oui, ça demande une vraie rigueur dans la mise en scène, une vraie rigueur dans le travail avec les acteurs. Il faut leur, d'une certaine façon, leur expliquer votre musique et leur dire comment ça doit être joué. C'est comme un chef d'orchestre, hein. C'est vraiment une pauvre métaphore, mais c'est la vérité. Faut pas que ça soit joué n'importe comment, une partition et un scénario, c'est pareil. Il y a que vous qui avez la vérité du scénario. Vous l'avez écrit et vous le mettez en scène, quoi.
Oui, surtout que là, le dosage est parfait, parce que il y a des scènes, je sais pas, les sadomaso au commissariat, mal fait, ça pouvait capoter, alors que là, c'est parfaitement réussi. Et est-ce qu'ils savaient, les acteurs, ce qu'ils allaient faire ensemble? Est-ce qu'ils ont découvert le film ici à Cannes, ou est-ce que vous l'avez vu avant à Paris?
Ils l'ont vu, on leur a fait une projection il y a quelques jours. Mais je pense qu'ils savent, parce qu'ils ont vu vos films en général avant de venir. Non, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que oui, par exemple, quand vous évoquez l'univers des sadomaso au début, la première arrestation, il peut y avoir un truc qui vient vite ironique ou méprisant, et à chaque plan, à chaque figurant, à chaque tournant du film, il faut faire attention à pas faire un film hautain. Il faut faire un film tonique, vivant, drôle, etc. Mais il faut, c'est vrai que presque parfois ça se fait par défaut, hein. Il faut éviter certaines facilités, il faut, voilà, et puis il faut tenir un cap, quoi, voilà, tout simplement.
Alors j'ai une question qui me perturbe diablement. Quels sont les noms des autres pizzas après la double peine? Parce qu'il y a un stand de pizza en face du commissariat. Alors la préférée du personnage d'Adèle Haenel, c'est la double peine sans oignon. Ensuite il y a la Gardave. Et puis hélas après le point a changé. Le focus était sur les acteurs, de sorte que j'ai pas vu le nom des autres pizzas. Pouvez-vous me le dire?
Si je me souviens bien, donc oui, il y a un petit stand de pizza en face du commissariat. Il y a la Bavure.
Ouais.
Qui avec un œuf. Et puis je me souviens plus. Il y a la Bavure, la Gardave, la double peine. Je crois qu'il y en a une. Non, je me rappelle plus. J'ai tourné il y a 2 ans, un an et demi.
Et alors, peut-être une dernière petite question sur un moment du tournage, peut-être où c'était très drôle, ou une phrase qui vous plaît particulièrement, une scène qui vous a vraiment à laquelle vous tenez particulièrement.
Il n'y a pas eu des moments comme sur certains films où tout à coup vous éclatez de rire en les jouant, parce que au fond, c'est toujours en situation. Ce film, c'est pas en soi drôle ce qui s'y dit, etc. C'est toujours la situation qui provoque la drôlerie. Mais il y a un moment où j'ai été fier de moi, c'est-à-dire au tourné, c'était très difficile cette scène de braquage avec des masques SM, avec des vocodeurs où les otages comprennent rien à ce que disent les braqueurs, etc. Et il fallait que les personnages passent de la colère à la réconciliation, de la réconciliation au dépit, de la colère au dépit amoureux, du dépit amoureux à la réconciliation. Et ça, c'était très compliqué. Et puis à un moment, je me disais que je sentais que c'était le lieu où le film devait donner une explication au spectateur d'une façon plus ou moins discrète. Et c'est la seule phrase que j'ai improvisée de tout le tournage, c'est quand il dit c'était faux mais c'était bon. Et je me suis dit voilà ma proposition absolue au cinéma avec ce film, c'est que c'était faux mais j'espère que c'était bon.
C'était vraiment très très bon. Merci beaucoup pour le film, Pierre Salvadori, et merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci à vous.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.